Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 11 juillet, ravi de vous retrouver. Nous allons revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction et avec Ennio Morricone, le compositeur de quelques centaines de musiques de films qui nous a quittés donc cette semaine, mais auquel nous rendrons hommage tout au long de cette émission. Vous entendez d'ailleurs une de ses créations, extraite du film « Il était une fois dans l'Ouest ». Nous sommes en compagnie cette semaine d'un grand reporter qui a raconté l'actualité internationale de ces 4 dernières décennies, Alain de Chalvron. Il vient d'écrire quelques souvenirs dans un livre qui s'intitule « En direct avec notre envoyé spécial ». Et avec lui, donc, nous allons partir pour Hong Kong, Cuba, le Brésil, le Bénin, ou bien encore le Kenya. Et avec Florence Maurice, nous parlerons également de l'ouverture d'une enquête de la justice américaine contre le fils du président congolais, Denis Christel Sassou Nguesso. Et nous reviendrons sur la formation du gouvernement Castex. Une semaine d'actualité, donc, une émission que vous pouvez retrouver podcastée sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Alain Chalvron.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver dans ce studio, de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes en quelque sorte chez vous?
Oui, j'étais chez moi et je me sens encore un peu chez vous, figurez-vous, même si vous avez déménagé entre-temps. Mais RFI, c'est ma boutique.
Vous avez connu le RFI, la RFI du début, du tout début?
Oui, alors quand je suis arrivé en 83, RFI, c'était une toute petite chose. Il y avait 3 émissions par jour, le matin, midi et soir, Afrique midi, Afrique soir, etc.
Ça existe toujours.
Ça existe toujours, grâce à Dieu, mais on a, autour de ça, créé un squelette, on peut dire. Puis le squelette est devenu cher et maintenant c'est une des plus belles radios au monde, hein, RFI. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une période d'expansion. J'étais très jeune à l'époque, je suis arrivé, je devais avoir 31 ou 32 ans. Et on a pu recruter du monde, on a commencé, c'est une petite équipe. Puis quand je suis parti, on était, je sais pas, une centaine, facilement une centaine. Et on était passé de 3 éditions par jour à une vingtaine.
Heureuse époque.
Oh, heureuse époque, très heureuse époque. Vraiment, très très heureuse époque.
On va parler de votre parcours, on va l'évoquer à partir de ce livre, donc en direct avec notre envoyé spécial, Les Tribulations d'un grand reporter. Ennio Morricone, ça doit vous dire quelque chose, vous qui avez vécu en Italie?
Oui, j'ai passé 6 ans en Italie, et effectivement, Ennio Morricone me dit quelque chose, même avant de venir en Italie, parce que j'ai toujours apprécié les films, Il était une fois dans l'Ouest, etc. Mais c'est vrai qu'en Italie, Ennio Morricone, c'était la musique, quoi. Il y avait une sorte d'équation, Ennio Morricone égale musique italienne.
Alors vous avez eu la chance, Alain Chalvron, d'être correspondant dans beaucoup de pays du monde, et pas les moindres, hein, les États-Unis, la Chine, l'Italie aussi. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup fait de reportages dans des situations de guerre, par exemple le Liban. C'est ce qui vous a donné envie de faire ce livre, d'écrire ça?
Alors c'est une des raisons, c'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de situations extraordinaires, qui font partie de l'histoire, hein, qui seront dans les livres d'histoire de nos enfants, de nos petits-enfants. Et donc j'avais envie de les raconter, la façon dont je les avais vécues. Et puis il y a aussi quelques petits secrets que je révèle. Donc ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation, c'était que ce métier est décrié aujourd'hui. Mmh. Alors que quand j'ai commencé, c'était le métier numéro un que les jeunes voulaient faire. Aujourd'hui, les journalistes sont non seulement insultés, mais même parfois menacés, dans certains pays plus que menacés même. Oui. Et donc, je voulais rétablir un petit peu l'honneur de ce métier, qui est pour moi le plus beau métier du monde. Et je pense que toutes ces critiques dont les hommes politiques essentiellement nous assaillent sont injustifiées.
Alors Alain, commençons notre voyage dans l'actualité de la semaine et direction Londres avec la publication par le gouvernement d'une liste noire de 49 personnes impliquées dans des assassinats. C'est un geste très remarqué, correspondance de Muriel Delcroix.
Ces sanctions sont sans précédent car c'est la première fois que le Royaume-Uni agit indépendamment de l'Union européenne à la suite du Brexit avec un nouveau régime qui lui est propre. La liste noire publiée par le ministère des Affaires étrangères comprend notamment 25 Russes accusés d'être impliqués dans la mort en prison en 2009 de l'avocat Sergueï Magnitsky qui avait dévoilé une vaste fraude fiscale impliquant des fonctionnaires. La liste inclut aussi 20 Saoudiens soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 à Istanbul. Annonçant la décision du gouvernement devant les députés, le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, a expliqué que ces sanctions envoyaient un message clair à ceux qui ont du sang sur les mains. Ils ne peuvent pas venir dans ce pays acheter des propriétés sur King's Road ou siphonner leur argent sale via les banques britanniques, a averti le ministre, en référence au quartier de Londres prisé des riches visiteurs étrangers. Une réponse aux associations de défense des droits de l'homme qui accusent régulièrement le Royaume-Uni de fermer les yeux sur de nombreuses violations dans le but de préserver ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ou de rester un havre financier pour les actifs de nombreuses grandes fortunes de la planète.
Une semaine d'actualité, Alain Chalvron, parlons maintenant des atteintes à la liberté de la presse. On en parlait, vous l'évoquiez il y a quelques secondes, quelques minutes, et partons pour Moscou afin de revenir sur l'arrestation d'un ex-journaliste pour « trahison » entre guillemets à Moscou, Daniel Valo.
Cela faisait 2 mois tout juste qu'il avait décidé de renoncer au journalisme. Écœuré par la reprise en main du journal Viedomosti, Ivan Safronov était devenu conseiller au sein de l'agence spatiale russe. Dans les heures qui ont suivi son arrestation, son nouvel employeur affirmait que les accusations de trahison pesant contre lui ne concernaient pas son travail actuel. Pour les nombreux journalistes en Russie qui lui ont apporté leur soutien, c'est une évidence. C'est en raison de ses activités passées de journaliste qu'Ivan Safronov a été arrêté. Selon la presse russe, c'est peut-être un article paru en 2019 et consacré à la vente d'avions de chasse à l'Égypte qui lui vaut aujourd'hui ses accusations de trahison, accusations qui pourraient entraîner une condamnation à 20 années de prison. Plusieurs médias russes ont exprimé leur solidarité avec Ivan Safronov et de nombreux journalistes sont venus manifester dans l'après-midi devant le siège des services de sécurité à Moscou. Une dizaine d'entre eux ont aussitôt été arrêtés. Commentaire sur les réseaux sociaux de l'une de ses anciennes collègues. Il est devenu impossible de travailler comme journaliste en Russie, à moins de servir les autorités.
Effectivement, Alain de Chalvron, une chose est de pratiquer le journalisme en France, une autre est de le pratiquer ce métier à Moscou.
Oui, c'est sûr que en France, on n'a pas quand même d'énormes problèmes, même si durant la période des Gilets jaunes, il y a eu vraiment des agressions de journalistes. Mais enfin, disons que on peut continuer à faire notre métier tout à fait librement. Mais en revanche, dans le monde, alors l'exemple de Moscou, mais on pourrait parler aussi de la Turquie, des Philippines, et naturellement des pays en guerre comme la Syrie, etc.
Enfin, de quelques pays africains aussi.
C'est devenu très généralisé. Alors, ça n'est pas complètement nouveau, hein. Disons que sur la Russie, on peut dire que c'est la fin d'une illusion. On a cru, après la chute du mur de Berlin, que ce grand pays allait rejoindre les pays démocratiques. En fait, on se rend compte que non. Maintenant, Poutine peut rester pratiquement président à vie. Et donc, effectivement, l'exercice du métier de journaliste est de plus en plus difficile. Mais c'est vrai que le métier de journaliste, même quand on a commencé dans les années 80, c'était pas facile partout, hein, et en particulier en Afrique d'ailleurs.
Parce qu'on a l'impression même en France que c'était plus facile avant, mais pas du tout, vous l'expliquez très bien, hein, il fallait se battre quand même pour devenir journaliste dans le bon sens du terme et au sens figuré du terme en France, parce que les places étaient aussi chères.
Oui, alors quand j'ai commencé donc dans les années 70, pratiquement l'audiovisuel était réduit à 3 radios périphériques, plus le monopole d'État, du service public, qui était très contrôlé par l'État. Enfin, il y avait, à l'époque de Gaulle et de Pompidou, les journaux télévisés se faisaient dans le bureau du ministre de l'Information, Alain Perfit. Et quand j'ai commencé, il y avait quand même une pression politique. Et puis tout ça s'est libéralisé petit à petit. J'ai eu la chance de diriger plusieurs rédactions, dont celle de RFI et France 2, par exemple. France 2, Dieu sait que c'est important dans la société française. Le journal de 20 heures, c'est pas rien. L'influence que peut avoir le directeur de la rédaction de France 2 est une influence considérable sur la société française. Eh bien, je peux vous garantir qu'en 3 ans, je n'ai jamais eu aucune pression politique.
Même si vous avez eu, vous le racontez dans le livre, Alain Chalbon, quelques explications avec des présidents, vous êtes fait engueuler par exemple par Mitterrand.
Je me suis fait engueuler par Mitterrand parce qu'on avait dévoilé sur France 2 l'affaire Habash. Vous vous souvenez, Habash, ce dirigeant palestinien un peu extrémiste qui était venu se faire soigner en France, avait fait un scandale et c'est nous qui avions sorti l'info. Et Mitterrand était furieux parce que ça a fait une affaire d'État, hein, vraiment une affaire d'État. Des très hauts fonctionnaires avaient dû démissionner.
Parce que le pouvoir l'a appris en vous regardant.
Hein. Oui, il a appris comme ça, en voyant ça à la télé, parce que bon, on pensait qu'on allait le faire venir en France, le soigner, et puis que personne n'en parlerait. Ben, manque de peau, on en a parlé. Et donc, Mitterrand a voulu mettre les choses au point. Il a fait une interview télévisée, et à la fin de l'interview, il m'a pointé le doigt. Il savait que c'était moi qui avais sorti l'histoire. Pointé le doigt sur le nez, il m'a dit « Je ne sais pas comment vous avez eu cette information, mais je le saurai un jour, et je vous le ferai payer. »
Voilà. Il ne vous l'a jamais fait payer.
Non, d'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais su.
Il a jamais su non plus.
Il faut attendre la publication de ce bouquin maintenant pour connaître la fin de l'histoire.
S'il fallait résumer aux jeunes journalistes qui nous écoutent ou aux jeunes qui veulent être journalistes en France ou ailleurs, en Afrique, que diriez-vous pour leur donner envie, hein? Vous écrivez, c'est la première phrase de votre livre, « Oui, je fais du prosélytisme, je le reconnais, je le revendique et j'en suis fier. Je fais du prosélytisme pour le journalisme. » Plus précisément pour le journalisme de reportage, hein? C'est ça.
Oui, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, hein, le journalisme, c'est beaucoup de métiers différents. Évidemment, le cœur du métier, c'est quand même le reportage. Et donc, c'est à ça que je fais allusion. Mais enfin, vous avez des postes d'encadrement aussi qui sont très intéressants, etc. Ben, qu'est-ce que je dirais à un jeune? Je lui dirais, c'est le plus beau métier du monde. Voilà, tu vas pouvoir vivre l'histoire, tu vas pouvoir aller dans le monde entier, tu vas pouvoir rencontrer des gens extraordinaires que tu n'aurais jamais la chance de rencontrer, qui sont pas forcément des têtes couronnées, mais qui peuvent être aussi des gens tout à fait ordinaires. Moi, les gens qui m'ont le plus frappé, ce sont par exemple des petits enfants esclaves en Haïti. C'est vraiment le reportage qui me reste le plus en tête. Et c'était des gamins il y en avait un de 7-8 ans et l'autre qui était une fille un peu plus vieille, mais ça marque. Et puis bon, évidemment, vous rencontrez quand même, j'ai voyagé avec le pape, j'ai voyagé avec un certain nombre de présidents et tout ça, c'est quand même des gens. On n'arrive pas président ou pape si on n'est rien du tout, quoi.
Sept jours dans le monde.
Et nous continuons notre voyage. Alain de Chalvron, Donald Trump a officiellement lancé la procédure de retrait des États-Unis de l'OMS. Et Joe Biden a dit qu'il annulerait cette décision au premier jour de sa présidence, s'il est élu, bien sûr. Mardi, le pays comptait plus de 130 000 morts du coronavirus et plus de 60 000 contaminations quotidiennes. Ce qui inquiète les Cubains de Cuba, qui ont les liens que l'on sait avec ceux de Miami. Écoutez ce reportage à La Havane signé Domitille Piron.
Enfin libre, voilà 3 mois que Juana n'avait pas mis les pieds dehors. Cette grand-mère sort prendre l'air avant d'appeler comme chaque jour sa famille à Miami qui la préoccupe. La cousine de Juana Pérez González, son mari et leurs enfants ont tous attrapé le coronavirus lors d'une sortie piscine il y a 2 semaines.
Moi, cela m'effraie, mais elle me dit de ne pas m'inquiéter parce que ce n'est qu'un mauvais rhume. C'est une idiote, c'est irresponsable. Et cette irresponsabilité est incarnée par leur président qui devrait donner l'exemple.
Juana explique que pour se soigner, sa famille de Miami recourt à l'automédication. Plus d'1,2 million de Cubains sont installés en Floride où l'accès aux soins de santé est ce qui préoccupe le plus ici. Lucia a eu 2 fils, l'un exilé en Espagne, l'autre aux États-Unis.
Nous, ici, nous sommes privilégiés parce que la santé est gratuite dans notre pays. Je pense tout simplement que nous sommes plus en sécurité que là-bas parce que nous sommes mieux préparés et beaucoup plus disciplinés.
Port du masque et isolement des personnes vulnérables obligatoires, fermeture de toute activité récréative. Seuls les magasins d'alimentation sont restés ouverts durant la pandémie. L'approche cubaine a été beaucoup plus radicale, mais semble-t-il plus efficace. L'île compte à ce jour 86 décès.
Partons maintenant pour le Brésil, où le président Bolsonaro a annoncé mardi avoir été contaminé par le coronavirus, lui qui est parmi le plus corona-sceptique, Ario Sara Cozolino.
La vie continue, a répété plusieurs fois Jair Bolsonaro en annonçant sa contamination au journaliste brésilien en direct du palais présidentiel à Brasilia. Visiblement de bonne humeur, à la fin de son discours, il a spontanément retiré son masque et exhibé un large sourire.
Voilà, comme ça vous pouvez voir mon visage. Je me porte bien grâce à Dieu et je remercie tous ceux qui ont prié pour moi et me soutiennent. Je vais bien.
Un geste qui a choqué sur les réseaux sociaux alors que depuis le début de la pandémie, le président brésilien se refusait à porter un masque. Interviewé par la chaîne Globo News, l'ancien ministre de la Santé, Luis Henrique Mandetta, ne semblait pas surpris par le diagnostic.
Qui s'expose beaucoup a de grandes chances de contracter le virus parce qu'il circule beaucoup. Évidemment, nous espérons que le président de la République se rétablira rapidement, qu'il retrouvera la santé et qu'il n'aura que de légers symptômes.
Des vœux de rétablissement partagés par le directeur général de l'OMS et des personnalités avec qui le président était en conflit récemment, comme les gouverneurs des États de Rio et Sao Paulo et l'ancien ministre de la Justice Sergio Moro. Fernando Haddad, adversaire de Jair Bolsonaro lors des dernières élections présidentielles, a lui aussi souhaité un bon rétablissement au président, tout en soulignant qu'il avait fait la pire gestion de la crise au monde.
Et de son côté, la présidente par intérim de la Bolivie, Jeanine Agnès, candidate à l'élection présidentielle du 6 septembre prochain, a annoncé elle aussi jeudi sur Twitter qu'elle avait été testée positive au coronavirus et qu'elle allait bien. Direction Hong Kong, maintenant que vous connaissez bien, l'un de Chalvron, où Pékin concrétise sa reprise en main du territoire. Sur place mercredi, Florence de Changy.
La cérémonie d'inauguration du nouveau bureau de la Sécurité nationale a été vite expédiée. Pendant la nuit, l'emblème officiel de la Chine avait remplacé l'enseigne de l'hôtel Metropark, une propriété du groupe chinois de tourisme CTS. Ce matin, la police avait bouclé le quartier et protégé l'immeuble de regards indiscrets par d'énormes palissades infranchissables. Le drapeau chinois a été hissé en présence de la chef de l'exécutif Carrie Lam et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que de tous les nouveaux visages du système de surveillance et de contrôle chinois qui est en train de se mettre en place à toute allure à Hong Kong. La veille, devant la presse, Carrie Lam s'était voulue rassurante sur l'impact de cette loi.
Au lieu de diminuer les libertés individuelles, la loi de sécurité nationale va ramener la stabilité. Au lieu de créer de la peur, la loi va rassurer et va permettre aux Hongkongais de revenir à une vie normale paisible. Hong Kong devrait retrouver son statut de l'une des villes les plus sûres du monde.
Pourtant, rares sont ceux qui osent croire à cette version optimiste des choses. Pour la plupart des Hongkongais, cette loi marque bel et bien la fin de leur liberté.
Voilà qui vous rappelle des souvenirs. On va d'abord commencer par les États-Unis. Vous avez été correspondant pour France 2. J'ajoute qu'il y a l'annulation.
Et pour RFI aussi d'ailleurs.
Et pour RFI aussi. J'ajoute à propos des États-Unis l'annulation de la convention républicaine qui devait se tenir à Houston. Quel commentaire faites-vous sur la situation des États-Unis aujourd'hui, très touchée donc par ce Covid? Je précise que la pandémie a fait à ce jour à peu près 555 000 morts dans le monde.
Oui. Alors, pour ce qui est de la pandémie elle-même, effectivement, elle a été gérée d'une manière absolument erratique par Washington et par Donald Trump en particulier, qui a quand même conseillé à ses concitoyens d'avaler de l'eau de Javel. Enfin, comment peut-on, franchement, avoir un président qui sort une ânerie pareille? Bon, ensuite, il a minimisé, il a pas fait ce qu'il fallait faire en termes de confinement dans les différents états concernés. Et on est aujourd'hui devant un désastre. On va certainement avoir plus de 150 000 morts, certainement, aux États-Unis. D'une façon plus générale, je pense que quand même cette affaire et sa gestion vont lui coûter très cher. Alors, je voudrais pas faire de pronostic parce qu'il reste encore quoi 4 ou 5 mois d'ici l'élection, donc les choses peuvent changer. Mais si l'élection se tenait aujourd'hui, je pense qu'il la perdrait à cause de la pandémie, mais aussi sa façon de gérer d'une manière générale, si vous voulez, le pays. Il y a eu un truc qui m'a énormément frappé, c'était il y a peut-être un mois, quand il a lors des émeutes raciales, quand il a dit, il a demandé l'intervention de l'armée, et le chef du Pentagone, le ministre de la Défense, lui a fait un bras d'honneur, en lui disant non. Pas du tout. Vous pouvez pas compter sur l'armée. C'est inimaginable. surtout aux États-Unis, où le président, c'est le commandant en chef, avant toute chose. Et le commandant en chef se fait rabrouer par le ministre de la Défense.
C'est-à-dire qu'à quel point, même dans son administration,
oui,
il est
contesté aujourd'hui. Il y a une déliquescence totale, quoi. Voilà.
La Chine, là aussi, alors, vous avez connu la Chine. Vous écrivez dans le livre « Vivre en Chine au début de la décennie », c'est-à-dire en 2000, c'est vivre dans un film en accéléré.
En 2010. Oui, c'est vivre en accéléré, parce que 2010, tout va tellement vite. Entre 2010 et 2016, où je suis parti, les villes étaient devenues méconnaissables. Hein. Il y avait des tours partout, des TGV dans toutes les directions, des aéroports grands comme trois fois Roissy, dans le moindre patelin, etc. Donc c'est un pays qui va très vite. Cela dit, ce que je retiens surtout aujourd'hui, c'est j'ai assisté à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Hein. Xi Jinping, il était vice-président, tout à fait anodin, on n'entendait jamais parler de lui, il avait cet air un peu souriant, comme ça, un peu mou. On l'appelait Winnie l'ourson. Maintenant, si vous parlez de Winnie l'ourson en Chine, vous avez de gros problèmes. Mais à l'époque, bon, ça veut dire, on s'est dit, bon, finalement, bah, c'est un type un peu, bon, qui va gérer les affaires courantes, un peu falot, voilà, un peu falot. Eh ben, ça n'a pas été le cas du tout. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un vrai changement de régime. Évidemment, le système n'a pas changé, mais la façon dont il était conduit après Deng Xiaoping, qui d'ailleurs avait placé des limites temporelles, hein, deux mandats simplement, maintenant il n'y a plus de mandat, il est président à vie s'il le veut, et le durcissement du pays, ce qui se passe avec les Ouïghours est absolument horrible, horrible, ce qui se passe à Hong Kong.
Et puis la remise en cause du statut de Hong Kong.
De Hong Kong, et puis demain peut-être Taïwan.
Oui. Donc il y a un changement
considérable. J'étais assez inquiet. Pour vous dire la vérité, quand Xi Jinping dit « nous récupérerons Taïwan de gré ou de force », ça m'inquiète.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons effectivement, Alain de Chalvon, parler de l'actualité en France. Elle est essentiellement politique avec la formation du nouveau gouvernement, dit de mission, de Jean Castex, plus à droite que celui d'Édouard Philippe, montrant ainsi, selon les opposants à Emmanuel Macron, que le président n'est ni à gauche, Valérie Gasse.
Emmanuel Macron n'a pas vraiment évité l'écueil du jeu des chaises musicales. Sur les 30 ministres annoncés, seuls 8 sont nouveaux. Le président de la République a plutôt choisi le changement dans la continuité avec quelques surprises sur les attributions. Gérald Darmanin passe finalement du ministère des Comptes publics au ministère de l'Intérieur. Le président a choisi la solidité de cet ancien sarkozyste pour remplacer le fidèle Christophe Castaner, discrédité, quitte à fâcher l'aile gauche de la majorité. Elisabeth Borne se retrouve au ministère du Travail. Après les municipal, il fallait certainement faire de la place pour une personnalité plus verte. La députée Barbara Pompili qui devient à sa place ministre de la transition écologique. Parfois, ce sont les périmètres qui ont été modifiés. Bruno Le Maire devient ainsi ministre de l'économie et de la relance pour marquer la volonté d'agir face à la crise annoncée. Parmi les entrants, Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice et Roselyne Bachelot à la Culture représentent les surprises de ce nouveau gouvernement. Un ténor du barreau au caractère bien trempé, une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, très expérimentée, deux figures médiatiques qui éclipsent les autres nouveaux de ce gouvernement où des marcheurs de la première heure ont été sacrifiés comme Sibeth Ndiaye. Pour Emmanuel Macron, l'heure est à l'efficacité.
Vedette médiatique incontestable de cette nouvelle équipe, l'avocat Éric Dupond-Moretti, ce pourfendeur des juges est donc devenu ministre de la Justice, Laurent Martel.
En plus de 35 ans de carrière, Éric Dupond-Moretti a arraché quelques 150 acquittements. Pénaliste hors norme, celui qui dit avoir embrassé le métier d'avocat par détestation de la peine de mort, a notamment plaidé dans nombre d'affaires médiatiques, en faveur par exemple du footballeur Karim Benzema, du frère de Mohamed Merah ou encore de Jérôme Cahuzac et Patrick Balkany. Récemment, il avait eu une passe d'armes avec Jean-Luc Mélenchon alors qu'il défendait les policiers dans l'affaire de la perquisition de la France Insoumise. En parallèle de sa carrière, l'avocat de 59 ans, connu pour sa verve percutante, se fait est parfois comédien, écrivain ou s'implique en politique, comme lorsqu'il soutient Martine Aubry au municipal de 2008, puis à la primaire socialiste 3 ans plus tard. Le nouveau garde des Sceaux prend ses fonctions dans un contexte délicat pour une justice dont l'indépendance est mise à mal, comme l'a illustré la récente polémique sur le fonctionnement du parquet national financier. Éric Dupond-Moretti sera sans doute très attendu sur cette question, lui qui a eu fin juin des propos virulents contre certains magistrats de ce parquet, après avoir appris que son téléphone avait été ciblé dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. On est chez les dingues, s'était-il exclamé, évoquant une minorité de juges qui dérapent et mettant en garde contre une république des juges dangereuse pour la démocratie.
À noter aussi, depuis la formation de ce gouvernement, des manifestations de féministes contre Gérald Darmanin visées par une plainte pour viol et Éric Dupond-Moretti, justement très critique envers le mouvement MeToo notamment. Il faut aussi signaler dans cette actualité du moment en France la multiplication des plans sociaux depuis le mois de mars, 193. Alain de Chalvron, vous avez vu longtemps la France de loin, ce qui ne vous empêche pas de vous intéresser à la politique ?
Oui, bien sûr. Alors, ce nouveau gouvernement a le mérite de la clarification, je dirais. Bon, parce qu'il y a 3 ans, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, beaucoup de gens de gauche se disaient, bon, il a été ministre de Hollande, c'est un socialiste. Hein, bon, on a voté pour lui parce qu'il était de gauche. Bon, maintenant, c'est clair.
Ni à gauche, ni à gauche.
Oui, ni à gauche, ni à gauche, mais à droite, voilà, on pourrait dire.
Donc ça, l'avantage de la clarté, effectivement. Oui. Revenons donc à l'exercice du journalisme. Vous faisiez l'éloge tout à l'heure, Alain, du journalisme. Il est en crise, pourtant, et il est notamment en crise parce qu'il y a de moins en moins de reportages. Vous êtes un reporter dans l'âme, vous avez bien noté qu'il est de plus en plus difficile, je ne sais pas ce qui se passe à France Télévisions, mais d'imposer des reportages dans toutes les rédactions, faute de souvent de ressources, de moyens.
D'argent, oui, voilà. C'est-à-dire qu'on a assisté au cours de ces 20 dernières années à une multiplication des médias. Bon, c'est une bonne chose, naturellement, mais ça a comme conséquence aussi que la part de chaque média sur le gâteau, si vous voulez, est de moins en moins grande. Quand j'étais à France Télévisions comme directeur, on avait 2 fois plus de téléspectateurs qu'aujourd'hui. Alors maintenant, parce qu'on a moins de téléspectateurs, on a moins de recettes publicitaires, naturellement. C'est valable aussi pour TF1, pour tout le monde. Et donc, moins d'argent pour faire des reportages qui coûtent quand même toujours relativement cher. Donc c'est vrai qu'on souffre de ça. Faut pas exagérer non plus quand même. On a quand même la possibilité de faire en gros ce qu'on veut. Enfin, faut se battre, faut aller voir les rédacteurs en chef, faut les convaincre, c'est plus difficile qu'avant. En contrepartie de ça, on a quand même eu beaucoup d'améliorations dans la pratique du métier. Quand j'ai commencé, quand j'étais à Beyrouth, par exemple, juste avant de venir à RFI, j'ai passé 3 ans au Moyen-Orient.
Donc c'était le Beyrouth en guerre, hein, c'était le Liban.
C'était le Beyrouth en guerre, hein. C'est ça. Et on pouvait passer des journées entières à attendre un coup de fil. Hein. J'ai passé par exemple à Damas des journées entières, je m'en souviens, parce que ça me rendait dingue que le Standard me passe la rédaction maintenant avec un téléphone portable n'importe où dans le monde, grosso modo, ou un téléphone satellite, vous pouvez joindre votre rédaction. Vous pouvez même envoyer des images maintenant.
Des images, des sons, oui. Dans des excellentes conditions techniques, en tout cas.
Oui, absolument. Et autrefois, il fallait des satellites, on transportait un matériel considérable qui pesait des centaines de kilos. Aujourd'hui, on a un ordinateur sur lequel on peut faire son montage, un téléphone satellite et on envoie des images du milieu du Sahara. Quoi. Voilà.
D'ailleurs, à propos du Liban, ça fait penser à la Syrie, le pays voisin. Vous avez connu une Syrie où il y faisait bon vivre, où d'ailleurs les journalistes allaient se reposer entre deux reportages de guerre.
Oui, Liban. Pas seulement les journalistes, oui, pas tout le monde d'ailleurs. Mais effectivement, tous les 3 mois, j'allais un peu en Syrie parce que vivre à Beyrouth avec sa famille, c'était quand même un petit peu difficile à ce moment-là. Il y a eu des périodes de très fortes tensions. Donc on allait, grosso modo, tous les 3 mois à Damas, à Palmyre, enfin, dans des endroits. C'était merveilleux, la Syrie, à ce moment-là. Bon, il y avait un régime de fer, hein, attention, c'était pas non plus une démocratie libérale, la Syrie, mais bon, c'était un pays merveilleux, voilà, on y allait, on se reposait, et puis on trouvait une atmosphère, disons, paisible.
D'ailleurs, vous avez rencontré, interviewé le père de l'actuel dirigeant syrien, c'était Hafez al-Assad. Celui qui serrait toujours, dites-vous, les poignées de son fauteuil.
En fait. Il enroulait littéralement les poignées de ses fauteuils. Et il parlait d'une voix très basse, comme ça, très longuement. Il parlait pendant des heures. Je me souviens très bien d'avoir accompagné Chesson, qui était ministre des Affaires étrangères français de l'époque, pour un entretien qu'il avait avec Hafez al-Assad dans la montagne à la Witt, près de Latakié, et ça a duré 5 heures parce qu'il remontait tout, il faisait tout remonter à Jésus, Saint-Pierre, Saint-Paul, etc. Et ça n'arrêtait pas. Et je me souviens qu'à la fin, je dis à Chesson, bon, c'était intéressant quand même. Ça, il me dit, écoutez, j'en sais rien parce qu'à la fin, j'écoutais plus rien. J'avais trop envie de pisser.
On a peu de choses finalement. Hafez al-Assad qui vous disait, un dictateur ne peut pas parler aussi faiblement, alors qu'il était vraiment, c'était vraiment un dictateur.
Oui, bah, vous savez, il n'a pas hésité à détruire une de ses villes. Hein. Hama a été prise par les frères musulmans.
Avec l'arme chimique.
Il a détruit complètement Hama. Voilà, ah non, il était extrêmement brutal. Hein, et le fils est dans la lignée du père. Quoi. Peut-être encore un peu pire quand même, je dirais quand même.
Est-ce qu'il est difficile d'imposer des sujets sur l'international, sur le monde, quand on est dans une rédaction française, fut-elle de télévision nationale?
Écoutez, France 2 est un peu privilégié de ce point de vue-là. On a encore conservé notre réseau de correspondants à l'étranger, on a une dizaine de postes. Donc on arrive quand même à faire passer des sujets, c'est mieux qu'ailleurs, je dirais, voilà.
Sauf à RFI.
Ah bah RFI, c'est tout le contraire. Oui, naturellement, RFI, c'est très ouvert sur le monde, par nature, je dirais. À France 24 aussi, probablement.
Je voulais que vous le disiez. Ça va mieux en le disant.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages, alors que nous écoutons une nouvelle musique d'Ennio Morricone. Alors je commence par saluer un de nos auditeurs les plus fidèles, D. Abou Samba, qui est instituteur actuellement en vacances à Kankossa en Mauritanie. Bonjour à Rodrigue qui nous écoute à Doba au sud du Tchad et à Abakar qui nous suit lui à N'Djamena. Bonjour à Ibrahima Khalil à Conakry, à Moussa à Zinder, un salut à Koli à Dakar, à Patrick à Lubumbashi, bonjour à Daouda à Bamako et à Babacar qui nous écoute à Bordeaux.
Semaine d'actualité.
Et nous allons donc partir pour l'Afrique dans un instant, Alain Chalvron, mais je tiens à préciser que c'est un continent que vous aimez, que vous connaissez, que vous avez fréquenté.
Oui, alors j'aime beaucoup l'Afrique, et lorsque j'étais à RFI, j'ai eu l'occasion d'y aller assez souvent. Malheureusement, trop peu de temps, je dois dire. C'était pour des grandes interviews de chefs d'État, de choses comme ça. Et malgré tout, je reste sur ma faim avec l'Afrique. J'ai fait 40 ans, 45 ans même, ce métier. J'ai été en Afrique, j'ai amorcer une connaissance de l'Afrique, mais j'aurais voulu en faire plus. Et je suis très heureux que mon fils, d'ailleurs, soit en Afrique, correspondant pour France 2, basé à Dakar, et lui qui a fait une immersion complète dans l'Afrique, qu'il adore aussi. Mais c'est, malgré tout, quand même un de mes regrets, de pas connaître mieux l'Afrique que ça.
Le fils fait ce que le père n'a pas pu faire.
Oui, exactement. Après avoir marché dans ses pas, hein, d'ailleurs, quand même.
Vous êtes tellement prosélyte que vous avez même convaincu votre fils de devenir journaliste.
Écoutez, ça, c'était pas prévu comme ça, parce que c'était pas tellement son truc. Et puis tout d'un coup, il m'a dit, papa, ben oui, je veux devenir journaliste. Je lui ai dit, il faut faire une école de journalisme maintenant. Il a fait une école. Et puis, bon, il se débrouille très bien. Voilà. Il n'a pas besoin de moi. On a même été tous les deux dans la même rédaction, quand même, celle de France 2. C'est pas d'ailleurs très agréable d'avoir son fils dans la même rédaction, je dois le dire, parce que on a quand même toujours un petit peu l'impression d'avoir un concurrent avec soi. Mais bon, ça a été un des grands bonheurs de ma vie de voir que mon fils, finalement, choisisse le même métier. Ça voulait dire que l'exemple que j'ai donné n'était pas si mauvais que ça, finalement.
Alors, partons pour l'Afrique, justement. L'Afrique d'aujourd'hui, Alain Chalvron. L'Afrique face à la pandémie de coronavirus, suite avec des situations bien bien contrastée selon les pays du continent. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, au Bénin, les examens ont pu avoir lieu. Reportage lundi de Jean-Luc Aplogan.
Tous les jeunes candidats sont arrivés masqués à leur centre d'examen, qui à moto, qui en voiture, accompagnés par les parents. Des parents particulièrement vigilants, jusqu'à l'entrée en salle, ils étaient là et n'ont rien négligé. Témoignage recueilli devant un centre d'examen à Cotonou.
Mon enfant, elle a son cache-nez. Elle est seule sur la table. On a essuyé la table.
De notre côté, on a essayé de lui donner tout ce qu'il faut là. Des bavettes, même en quantité, on lui a donné de la chèvre à 10 heures. On doit lui apporter de la manger et à midi aussi.
Il y a eu 5 épreuves pour la première journée, dont une épreuve orale de chant ou de poésie. Mesure de précaution dans cet exercice, 1 mètre doit séparer le candidat et l'examinateur. À la fin de la journée, lorsqu'on tente un bilan avec le candidat, il parle des épreuves, mais aussi des gestes barrières.
J'ai mis mon masque aujourd'hui.
J'ai lavé les mains et j'ai respecté les 1 mètre d'écart.
On a fait de lavage de mains avant de rentrer en classe. J'ai bien travaillé
dans toutes les matières.
C'est un peu facile, on a beaucoup fait.
En attendant l'évaluation des syndicats, quelques chefs de centre vus à Cotonou se disent satisfaits. Ils reconnaissent avoir joué par moments les gendarmes pour empêcher que les enfants s'agglutinent. L'examen s'achève mercredi par les épreuves sportives. À cause de la Covid-19, il n'y aura pas de sport de contact.
Examen au Bénin, mais écoles fermées au Kenya et recrudescence de la corruption chez les policiers. Correspondance de Sébastien Demet.
Les policiers sont partout, au rond-point, carrefour, le long des routes, près des parkings. Et le rituel est toujours le même. Ils approchent des autocars, les chauffeurs leur serrent la main et donnent au passage un billet. Pourtant habitué, Lucky Johnny, gérant d'une station de bus, n'a jamais vu ça.
Corruption is like breakfast in Kenya.
Il explique qu'au Kenya, la corruption c'est comme le petit déjeuner, ça revient tous les jours. Sauf que cette fois, le phénomène est encore plus marqué. Selon lui, le confinement et la baisse du trafic ont privé les policiers de leur pot de vin habituel. La reprise est donc une aubaine. C'est comme s'ils avaient été mis en quarantaine aussi, dit Lucky Johnny, comme s'ils avaient encore plus faim que nous. Le Kenya est l'un des 40 pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International, sauf que dans le transport, les chauffeurs doivent financer les dessous de table sur leur propre salaire. Boniface Kimati est conducteur depuis 30 ans, la situation est telle qu'il a envie de tout plaquer. Il explique qu'avant, les policiers se contentaient de 1 dollar, mais maintenant ils demandent plus. Ils ont l'air fauchés, dit-il. Or, la crise a fait perdre beaucoup d'argent à tout le monde. Le poids de la corruption est donc encore plus lourd pour les chauffeurs. Aujourd'hui, j'ai envie de démissionner parce qu'à la fin de la journée, je n'ai plus rien, confie Boniface Kimati. Au Kenya, janvier est surnommé le mois de la faim car les policiers cherchent partout de l'argent pour payer l'école de leurs enfants. Sauf qu'en ce moment, c'est tous les jours janvier, disent les Kenyans.
Et sachez que près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, d'après la Banque africaine de développement. En Côte d'Ivoire, la mort du Premier ministre rebat les cartes de la présidentielle. Successeur désigné du président Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, HSC, a été emporté par un malaise cardiaque à Abidjan mercredi. Son portrait avec Binta Diagne.
Amadou Gon Coulibaly était un habitué du sérail politique. Il baignait dans ce milieu depuis tout petit. Amadou Gon Coulibaly est issu d'une famille influente de Korogo dans le Nord. Son père était député PDCI-RDA du temps de Félix Houphouët-Boigny. Ingénieur des travaux publics de formation, Amadou Gon Coulibaly gravit progressivement les échelons. Il est élu député à l'Assemblée nationale de 95 à 99, puis maire de la ville de Korogo en 2001. À côté de ses fonctions politiques, il assume à plusieurs reprises de haute responsabilité au sein de l'administration publique ivoirienne. AGC, comme on le surnomme, est conseiller technique d'Alassane Ouattara lorsque ce dernier assume le poste de Premier ministre entre 90 et 93. Depuis, les deux hommes ne se quittent plus et se vouent une confiance sans faille. Fidèle à Alassane Ouattara, il quitte le PDCI et fait partie au milieu des années 90 des fondateurs du RDR, dans lequel il occupe ensuite plusieurs fonctions au sein du comité central. Nommé Premier ministre et chef de gouvernement en janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly met notamment en œuvre les projets de rénovation des infrastructures à Abidjan. Dans l'entourage du président, on loue volontiers sa rigueur, son sens de l'organisation et sa force de travail, des qualités qui avaient permis à ce technocrate d'être désigné de manière consensuelle candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre.
Suite d'une semaine d'actualité avec un nouveau volet judiciaire qui s'est ouvert dans le dossier dit des biens mal acquis présumés de la famille présidentielle du Congo-Brazzaville aux États-Unis cette fois. Deux procureurs de Floride ont en effet engagé une procédure en vue de saisir une luxueuse propriété située à Miami estimée à 3 millions de dollars et dont ils affirment qu'elle aurait été acquise par Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils du président congolais, avec de l'argent détourné en provenance de la SNCP, la Société nationale de pétrole du Congo, dont il a longtemps été le numéro 2. La requête des procureurs que l'ONG Global Witness s'est procurée et également consultée par RFI détaille étape par étape la façon dont il aurait agi via des prête-noms et sociétés écrans. Florence Maurice.
Première étape, selon les procureurs américains, détourner l'argent du compte de la SNPC vers ceux de l'une de ses sociétés écrans. Pour cela, en tant que cadre dirigeant et fils du président, il aurait suffi, selon eux, à Denis Christelle Sassou Nguesso d'ordonner ses transferts au PDG de la banque BGFI, qui héberge les comptes de la SNPC, et cela s'est produit plusieurs fois, peut-on lire dans le document de la justice américaine. Deuxième étape, envoyer cet argent aux États-Unis sur les comptes d'un prête-nom, un certain associé A, dont l'identité n'est pas dévoilée, décrit dans ce document comme le fils d'un haut fonctionnaire gabonais, le tout via un système de fausses factures pour dissimuler l'origine des fonds. L'associé aurait ensuite versé une partie de l'argent à un avocat en Floride et le reste lui-même en vue d'acquérir la propriété de Miami au cœur de cette procédure, prix de vente à l'époque 2,8 millions de dollars. Pour ne pas apparaître comme le véritable propriétaire du bien, écrivent enfin les procureurs, le fils du chef de l'État congolais aurait fait rédiger dans un premier temps l'acte de vente au nom de son associé avant, à la dernière minute, de s'y substituer sous l'alias de Denis Christelle, 2LE au féminin, une fausse identité, une méthode qu'il aurait aussi utilisée avec d'autres acteurs pour acquérir une seconde résidence près de Miami, mais aussi un logement en France, toujours selon les procureurs américains.
Sachez qu'une version longue de cette enquête de Florence Maurice est disponible sur le site de la radio www.rfi.fr. Vous me disiez à l'instant, Alain de Chalvron, que vous aviez interviewé le président Sassou Nguesso.
Oui. Dans les années 80, donc ça devait être en 84, 85, quelque chose comme ça probablement. Et ben oui, il était déjà président et il l'est toujours. Je crois qu'il n'y a qu'un seul autre cas, c'est Biya, Paul Biya, qui était aussi président dans ces années-là, mais que je n'avais pas interviewé, lui. Et puis alors, il y a des présidents qui ont généré des fils qui sont devenus à leur tour président au Gabon, au Togo, etc. Voilà.
Je voudrais qu'on reparle d'une affaire qui a traversé votre carrière, c'est l'affaire des enfants Oufkir. Je trouve que c'est une belle histoire. Un jour, vous recevez un coup de téléphone, et qu'est-ce qu'on vous dit? Racontez-nous.
Alors, on reçoit un coup de téléphone, et bonjour, je suis Maria Oufkir, je suis un des enfants du général Oufkir. Et
opposant
voilà.
Donc à Hassan II.
Voilà,
Hassan
qui avait fomenté un coup d'État qui n'avait pas réussi, et puis donc qui avait été tué par le roi à ce moment-là. Et les enfants, qui n'y étaient pour rien naturellement, ont été mis en prison pendant 20 ans. Et donc elle me dit, voilà, nous nous sommes évadés, nous avons vécu l'enfer, nous avons été prisonniers dans des prisons épouvantables, et là, j'ai besoin d'aide. Voilà, aidez-nous, trouvez-nous un avocat, quelque chose, faites quelque chose pour nous. Et je lui dis à ce moment-là, bah, écoutez, on va d'abord enregistrer votre récit, et puis on verra ce qu'on fait. Donc elle me raconte l'histoire, enregistrée, dans un studio de RFI ici. Enfin, c'était pas ici, c'était à la maison de la radio, mais voilà. Et donc on garde ce document précieusement, et ensuite on discute, on la fait d'abord reconnaître par un journaliste que vous connaissez bien d'ailleurs, qui était à Tanger à ce moment-là, qui nous dit, il y a aucun doute, on envoie un avocat là-bas, le collaborateur de Maître Kiechmann, qui nous dit, il y a aucun doute. Et à ce moment-là, je rentre en contact avec le ministre de l'Intérieur, l'homme très puissant du royaume, monsieur Basri, et j'entre en négociation littéralement avec lui. Je lui dis, écoutez, voilà, les enfants Oufkir, on sait qu'ils sont libérés, qu'ils sont évadés, ils avaient été repris par la police naturellement, mais maintenant je vous mets le marché en main, monsieur Basri, vous les libérez et nous on parlera pas de cette histoire. Ça a duré 3-4 jours, et puis finalement, on a rendu l'histoire publique, on a diffusé l'interview. Et après, Basri m'a dit, vous savez, j'avais pas confiance. C'est-à-dire, je pensais qu'un journaliste ne résiste jamais à un scoop, et donc vous auriez de toute façon diffusé la bande. Je lui ai dit, vous êtes trompé, monsieur Basri, nous aurions tenu parole. Pour nous, l'essentiel était la vie de ces enfants, et maintenant ils sont libres, et certains sont en France, je les vois toujours, et c'est une des grandes satisfactions de ma carrière, c'est d'avoir sauvé des vies.
Comme quoi on fait beaucoup de choses quand on est journaliste et pas seulement des reportages.
Oui, c'est vrai que parfois on a toujours des émotions, hein. Là, évidemment, on n'est pas quand même des êtres insensibles. Je vous parlais tout à l'heure de Haïti, ça a vraiment été...
On sent que ça vous a marqué, hein. Vous avez quelques pages émues dans ce livre.
Ce reportage sur les enfants esclaves qu'on appelle les restes avec, ou les faits pour ça, c'est vraiment un truc très dur.
Je salue d'ailleurs nos auditeurs haïtiens qui nous écoutent en ce moment.
Oui, je sais qu'il y en a beaucoup, et moi aussi je veux leur dire que ce pays est formidable, mais... C'est émotionnellement très fort. Hein. Franchement, un petit garçon de 8 ans qui faisait la vaisselle, qui me disait « je travaille de 6h du matin à minuit », je lui dis « mais t'as des jouets quand même ?»« Des quoi ?»« Des quoi ?» Il savait même pas ce que c'était des jouets. « T'as des amis, des copains ?»« Ah non, 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 on n'a pas de quoi, on doit travailler tout le temps. » Et une petite fille qui me disait... Elle avait eu la chance d'avoir des maîtres, si on peut dire, qui la laissaient aller à l'école le matin, et elle avait les yeux tellement tristes, et elle me dit, vous savez, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est mourir. C'est mourir, et ces gens-là, on les appelle des faits pour ça, parce qu'ils sont faits pour être esclaves, voilà, ils restent dans les familles, mais ils sont pas faits pour mourir. Non, ils sont faits pour travailler. Comme esclaves, voilà. Ouais. Donc ça, c'est les... Alors, j'ai aussi que je voudrais raconter ici, parce que c'est aussi un moment fort. C'était aux Philippines, après un cyclone terrible où il y avait eu des milliers de morts. C'était un des reportages les pires de ma vie, d'ailleurs, vraiment, parce que là, il y avait une odeur de mort partout, à Tacloban, vous vous souvenez peut-être de du nom de cette ville. Et là, on voit, alors les gens, il n'y avait plus rien, d'électricité à boire, à manger, il n'y avait plus rien, une chaleur terrible, et les gens attendaient pour se faire évacuer vers Manille, et dans un espèce de sas, avant l'évacuation, on tombe sur une femme avec deux petites jumelles, qu'elle tenait dans ses bras, qui avait peut-être 6 mois, et qui était visiblement en train de mourir, mais vraiment. Elles étaient en train de mourir. Et nous, on avait la chance d'avoir un peu d'eau, parce qu'une ONG nous avait donné de l'eau, une bouteille d'eau. Et donc, on donne cette eau à ces deux gamines toutes petites. Et elles sont ressuscitées devant nos yeux, mais vraiment comme une fleur qui éclot. Alors là, je peux vous dire, avec mon caméraman, le bonheur qu'on a ressenti.
Ah, rien que pour ça, faut être journaliste. parce qu'on, voilà. On est amené parfois à faire ce genre de choses. Il y a une chose qui vous énerve beaucoup, et on va terminer avec ça, Alain de Chalvron, c'est ce que l'on appelle le nouveau journalisme. Vous savez, ces journalistes qui sont derrière des écrans d'ordinateur.
Ah non, alors il y a deux choses. Il y a des journalistes qui sont derrière leurs ordinateurs et qui font bon un travail correct, si vous voulez, mais évidemment pas du reportage, c'est sédentaire. Mais il y a un journalisme qui m'énerve beaucoup, je mets le journalisme entre guillemets, c'est tous ces sites internet qui, soi-disant, nous donnent de l'information, qui souvent sont au service d'une cause, quelle qu'elle soit. Parfois, et même assez souvent, au service de renseignement étrangers qui veulent faire passer des messages. On a vu à quel point c'était important, par exemple, aux États-Unis pendant la campagne électorale qui a vu le triomphe de Trump. Et le triomphe de Trump n'est pas non plus dû au hasard, c'est dû en grande partie à comment on peut appeler ça ? C'est pas du journalisme, c'est officines, voilà. Et malheureusement...
De désinformation.
Oui, voilà, on nous confond, nous qui faisons notre travail le plus honnêtement possible, et on fait pas tant d'erreurs que ça, malgré tout, et ces gens-là, et ça n'a rien à voir. On n'a rien de commun avec eux.
Merci Alain de Chalvron d'être venu nous voir cette semaine, ce samedi, pour évoquer quelques souvenirs.
C'était un plaisir, oui, vraiment. Vous savez, ça me fait plaisir de retrouver RFI et les auditeurs de RFI.
Vous êtes chez vous, ici, en direct avec notre envoyé spécial, Les Tribulations d'un grand reporter, c'est le titre de ce livre publié aux éditions de L'Archipel. Merci. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rowensky, bien sûr. Nous vous retrouvons demain dimanche pour le magazine Idées. Et nous nous intéresserons à la manipulation de la langue, justement, aussi. Les mots ont un sens et peuvent être manipulés, vous le savez bien, Alain de Chalvron. Avec notre invité Frédéric Joly, nous parlerons de Victor Klemperer, un professeur allemand persécuté par les nazis et qui a écrit un livre majeur sur la langue du Troisième Reich, LTI, c'est son titre. Et nous serons aussi avec Patrick Avran, qui est lui psychanalyste. Avec lui, nous rendrons hommage en quelque sorte aux maisons et aux appartements qui nous ont accueillis durant le confinement. Il vient d'écrire « Maison quand l'inconscient habite les lieux ». Rendez-vous demain pour Idées, 17h10, heure de Paris. Et on conclut cette émission comme on l'a commencé, Alain Chalvron, avec Ennio Morricone et un extrait cette fois du film « Mission ». Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.
à l'heure.